André Limbouima et au Katanga oriental. J'ai réfuté totalement ce qui se
passe. Moi, c'est Céline de Lubumbashi au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes présidents, trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour à tous et merci de votre fidélité à Radio Okapi qui vous accorde la parole. La CPI a, disons déjà, en marge de cette célébration, la Cour pénale internationale organise depuis hier 3 journées scientifiques à Kinshasa sur les thèmes statut des Roms 10 ans après, état des lieux de la justice congolaise. En 10 ans, les statistiques font état de 22 mandats d'arrêt délivrés par la CPI, de 16 affaires portées devant elle et d'un seul verdict, celui du Congolais Thomas Lubanga. La question au cœur du débat d'aujourd'hui, les statuts des Roms 10 ans après, quel avenir pour la justice congolaise? Inscrivez-vous déjà, chers auditeurs, pour participer au débat et faites-nous parvenir à l'adresse pa@radiocapi.net vos commentaires et préoccupations, et vous pouvez également les poster sur notre page Facebook. Titi Poutou, Piero Elameji et Diedone Nyangasa sont à la réalisation de cette émission, présentée et coordonnée par J.R. Lungembo sous la supervision de Nikon Ngaka. Bienvenue à tous.
Parole aux auditeurs pour participer 081 890 63 15 ou par internet pa@radiookapi.net.
Parole aux auditeurs, J.R. Lungembo.
Nous avons dans ces studios Pascal Turlan, conseiller en coopération internationale au bureau du procureur de la CPI, dans ces studios pour parler, débattre, échanger pendant près de 57 minutes avec vous, chers auditeurs. Vous avez été nombreux à vous faire inscrire pour participer à ce débat. Et vous qui venez à peine de nous rejoindre, faites comme les autres, donc composez les 081-890-6315. Bonjour Pascal Turlan.
Bonjour à vous.
Voilà, d'entrée de jeu, est-ce qu'on peut avoir une idée sur les circonstances qui ont milité à la création de la Cour pénale internationale?
Bon, comme vous le savez, la Cour pénale internationale date du statut de Rome qui a été adopté en juillet 1998, qui était le résultat d'un constat, le constat qu'au cours du XXe siècle, au cours de la fin du XIXe et du XXe siècle, des crimes avaient été commis un peu partout, en Europe principalement, mais également dans le reste du monde, et qu'il n'y avait pas nécessairement de réponse pénale à la hauteur de la gravité de ces crimes, que les États n'étaient parfois pas en mesure de juger eux-mêmes ces crimes, ou qu'ils n'en avaient pas la volonté, que les circonstances l'empêchaient. Il y a donc une réflexion qui s'est développée, qui a abouti, donc vous le savez, à la création des tribunaux de Nuremberg et de Tokyo après la Seconde Guerre mondiale, et puis plus tard, dans les années 90, les tribunaux ad hoc pour la Yougoslavie et pour le Rwanda suite au génocide au Rwanda en 1994. Après ces expériences, qui étaient des expériences ponctuelles, l'idée s'est concrétisée de créer une cour qui serait une cour à la fois permanente et à vocation universelle, qui permettrait d'amener devant la justice les auteurs de ces crimes parmi les plus graves, sans qu'il soit besoin nécessairement à chaque fois de créer un tribunal spécial ou une juridiction exceptionnelle. Donc cette cour existe, elle est partie de ce consensus, de cette idée que justice devait être faite pour les crimes les plus graves et qu'il fallait que l'institution qui rendrait cette justice préexiste à la commission de ces crimes et soit en mesure de réagir rapidement lorsque de telles circonstances se produiraient.
Alors pour atteindre effectivement les objectifs du statut des Roms, tels que vous venez de les énumérer, comment la CPI collabore avec les États?
Alors la Cour pénale internationale est un système qui est composé de deux éléments. Le statut de Rome crée une cour d'une part, mais il s'appuie aussi sur la priorité qui est donnée aux États et qui est rappelée, la priorité rappelée des États dans la lutte contre l'impunité. Les États sont responsables pour la poursuite des crimes les plus graves. La Cour n'est là que de façon complémentaire afin de pallier aux déficiences de ces États. Lorsque des crimes sont commis sur un territoire, l'État souverain, le système judiciaire national, doit poursuivre ces crimes, y compris ces crimes qui sont les plus graves, les crimes contre l'humanité, les crimes de guerre, les crimes de génocide. Lorsque cet État ne peut pas le faire, ou lorsque pour une raison ou une autre il ne veut pas le faire, à ce moment-là, la Cour peut intervenir et prendre le relais dans un système qui est dit complémentaire. Une fois que la Cour intervient, dans le cas de la République démocratique du Congo, à la demande même de la République démocratique du Congo, à ce moment-là, l'État, lui, doit coopérer avec la Cour, puisque c'est lui qui a demandé son assistance, il doit coopérer avec la Cour pour aboutir à des arrestations et à des poursuites.
Alors Pascal Turlan, à ce niveau-là, la Cour ne se substitue-t-elle pas aux cours suprêmes des États tel que le pensent les uns et les autres.
La vocation de la Cour n'est pas de se substituer. La vocation de la Cour est d'amener une solution lorsqu'il y a un blocage. En République démocratique du Congo, en 2004, le gouvernement de transition à l'époque, présidé par le président Joseph Kabila, avait décidé de renvoyer la situation devant la Cour en disant que le système judiciaire congolais, qui sortait de deux séries de guerres qui ont marqué l'ensemble du continent, ne pouvait pas poursuivre ses auteurs des crimes les plus graves. Il y avait une certaine complexité dans la poursuite de ces crimes et qu'il y avait une difficulté à le faire au niveau national. Il a demandé à la Cour de l'aider. Le travail de la Cour pénale internationale, en complémentarité avec les juridictions nationales, c'est d'intervenir lorsque la complexité des cas, lorsque la situation nationale empêche la poursuite de ces crimes. Mais la vocation de la Cour, c'est d'intervenir à court terme et de passer ensuite le relais aux juridictions nationales pour qu'elles enquêtent elles-mêmes et qu'elles poursuivent elles-mêmes ces crimes lorsqu'elles seront redevenues en capacité de le faire ou lorsque la volonté politique sera affirmée.
Voilà, alors la Cour pénale internationale a 10 ans, et à l'occasion d'ailleurs de 3 journées scientifiques sont organisées à Kinshasa depuis ce mardi, sur les termes des statuts des Roms, l'état des lieux et perspectives pour la justice congolaise. Alors, une préoccupation en 10 ans, les statistiques font état de 22 mandats d'arrêt délivrés déjà par la CPI, de 16 affaires portées devant elle et d'un seul verdict, celui du Congolais Thomas Lubanga. Mais avant qu'on en parle, aujourd'hui, sur le 22 mandats d'arrêt, on compte tout de même plus ou moins 4 ou 5 Congolais déjà dans, disons, dans le collimateur de la Cour pénale internationale.
Alors pour être tout à fait exact, effectivement la Cour a émis 22 mandats d'arrêt depuis son entrée en fonction. Deux de ces mandats d'arrêt ont été retirés en raison de la mort des personnes, Muammar Kadhafi pour la situation en Libye et puis Monsieur Lukuya pour la situation concernant le nord de l'Ouganda. 6 mandats d'arrêt ont été exécutés et il en reste aujourd'hui 12 qui restent à exécuter. Mais la Cour a également émis des citations à comparaître, 9 citations à comparaître qui ont abouti à des poursuites dans certains cas, par exemple dans les situations au Darfour et la situation au Kenya. Donc plus que 22 mandats d'arrêt, il y a également ces citations à comparaître. Dans ce cadre-là, effectivement, aujourd'hui, devant la Cour pénale internationale, ont déjà comparu 5 ressortissants congolais. Nous avons Jean-Pierre Bemba qui comparaît devant la Cour pénale internationale, mais qui est, si je puis me permettre, qui a été arrêté en relation avec la situation des crimes commis en République centrafricaine. Nous avons également donc Mathieu Ngoudjolo et Germain Katanga, dont le procès a touché à sa fin. Nous attendons maintenant la décision des juges. Nous avons Thomas Lubanga, qui a été condamné le 14 mars dernier. Nous avons eu Calixte Mbarushimana, pour lequel les juges n'ont pas confirmé les charges que nous avions essayé d'amener contre lui. Et nous avons aujourd'hui un mandat d'arrêt en attente d'exécution contre Sylvestre Moulachumura, DFDLR, et un autre que tout le monde connaît, contre Bosco Ntaganda. Donc effectivement, un certain nombre de Congolais sont devant la Cour et je crois que c'est un très bon signe. Cela veut dire que la République démocratique du Congo, lorsqu'elle s'est engagée dans un processus d'une part de réconciliation, de pacification et d'autre part de lutte contre l'impunité, ce qui nous pensons va ensemble, il n'y a pas pour nous de distinction ou de combat entre la lutte contre l'impunité et la paix. Les deux vont de pair, ce processus a été enclenché, il y a une certaine cohérence dans ce processus, il y a une coopération de la part des autorités congolaises et aujourd'hui, le fait que des ressortissants congolais qui ont commis des crimes contre leur propre population se retrouvent aujourd'hui devant la CPI est un très bon signe qui montre qu'il y a une volonté d'aller au-delà, de régler les problèmes du passé, de répondre aux souffrances des populations et des victimes et d'avancer dans le bon sens.
Donc c'est à tort ou à raison que d'aucuns pensent que la Cour n'est qu'une Cour pour les Africains.
Alors je crois qu'il faut un petit peu inverser ce paradigme, on entend beaucoup dire ça. Madame la juge Diarra qui vient du Mali en parlait hier lors de ses journées scientifiques, Madame Fatou Bensouda, notre procureur qui vient de la Gambie, en parle de façon régulière. Elles sont quelque part choquées lorsqu'on leur fait cette remarque. Pour elles qui viennent du continent d'ailleurs, il y a un petit peu une inversion de perspective. Qu'est-ce que diraient les gens si la Cour pénale internationale décidait, bon, des crimes ont été commis en RDC, des crimes ont été commis en Ouganda, des crimes ont été commis en République centrafricaine, nous n'allons rien faire parce qu'il ne faut pas qu'on enquête sur ces crimes, ils sont en Afrique. Je crois qu'il faut vraiment réfléchir dans ce sens-là. La raison pour laquelle la Cour pénale internationale intervient dans ces pays, c'est parce que ces États-là en ont fait la demande. Ces États-là ont estimé que leur système judiciaire avait besoin d'un petit peu d'aide à un moment donné pour poursuivre ces crimes-là qui avaient été commis contre leur propre population. Il y a une attente des victimes, il y a une attente des populations. Nous répondons positivement à cette attente dans la mesure où, selon nous, des crimes de notre compétence ont été commis. Et c'est plutôt une marche en avant positive qui vise à répondre à une souffrance.
Ce sont les États qui en font la demande. Il y a beaucoup d'auditeurs qui souhaiteraient intervenir dans cette émission et nous rappelons d'ailleurs à ceux qui viennent à peine de nous rejoindre, de composer également les 081-890-63-15 pour les appels ou carrément les 081-890-43-39.
Parole aux auditeurs.
Voilà, docteur Richard est à Kinshasa, Jésus à Bounia et Demaga à Boutembo. Bienvenue à vous tous. Docteur Richard, bonjour.
Bonjour, JS.
Voilà, nous disons, la CPI a 10 ans aujourd'hui. Le thème du jour, le statut des Roms a 10 ans. Quel avenir pour la justice congolaise? Quel commentaire faites-vous?
Je commence d'abord par présenter mes voeux les meilleurs à la CPI pour ces 10 ans d'âge. Pour répondre à la question « Quel avenir pour la justice congolaise ?», je pose à l'invité la question de savoir qu'est-ce que lui, il entend par la paix et la justice dans les États contre ceux qui ont tué leur propre peuple. Qu'est-ce que la CPI a fait du rapport Mamping? Deuxième question, qu'est-ce qu'on entend par massacre de Bundudia Congo? Parce qu'on en parle dans le procès de Chebeya. Nous voulons savoir c'est quoi et comment la CPI peut se saisir de ce dossier. Troisièmement, la justice congolaise depuis hier a prouvé ses limites. C'est une justice morte. C'est une justice des grands contre les faibles. Il n'y a pas d'avenir pour le peuple congolais dans sa propre justice. Bon anniversaire la CPI. Merci.
Merci docteur Richard. Josué, vous êtes à Bounia. Bonjour.
Bonjour, JS.
Voilà, docteur Richard parle de la paix et la justice dans les États. Comment la CPI entend, comme explication à ces termes-là, la paix et la justice. Il évoque également la problème de limites de la justice congolaise. Et là, ça nous renvoie, s'il faut vraiment entrer dans la pensée de docteur Richard, pour dire que toutes les questions ou tous les conflits que nous enregistrons actuellement en RDC doivent être transférés à la CPI, et il a souhaité par souhaiter un bon anniversaire à la CPI. Josué, que vous donnez quel commentaire par rapport au thème du jour?
Oui, par rapport au thème du jour, M. Gier, avant même que je ne parle de l'avenir de la justice congolaise et par rapport au statut des Roms, je voudrais, si vous me permettez, dresser un bilan.
Si on doit rester vraiment dans la problématique, hein.
Oui.
Voilà, donc on reste vraiment dans la problématique du jour.
Dresser un bilan des plusieurs adversaires depuis que la Cour pénale internationale est entrée en action. Et vous venez vous-même de dire que depuis la Cour a seulement envoyé 22 mandats, parmi lesquels 16 ont répondu présents par devant la Cour, et jusque-là seulement un seul verdict est rendu, bien entendu celui de M. Thomas Lubanga. Et de ce qui procède, monsieur le journaliste, même si l'on n'est pas juge, et j'ai en vertu du bon sens de force de constater que le bilan est tellement négatif et que la Cour n'a pas bien fonctionné. Et à mon avis, cet échec est dû, d'une part, de la passivité de la Cour face aux influences politiques, d'autre part, de la faiblesse juridique même du statut des Roms, régissant le fonctionnement et l'organisation de la Cour. Parce que, et selon moi, monsieur le journaliste, les statistiques citées auraient dû doter la Cour d'une police propre en elle, en vue de faciliter à la poursuite et criminelle via le procureur général près de la Cour pénale internationale. Et tout cela, c'était pour seulement détourner toute influence des politiques tendant à porter à cet fonctionnement de la Cour. Et de ce fait, monsieur le journaliste, vous contenterez avec moi que la philosophie opérationnelle de la part de la Cour aux États membres a totalement échoué. Et maintenant, pour répondre à la question du jour, qui est celle de savoir et de dresser une perspective d'avenir de la justice congolaise par rapport au cas Diaron, je pense qu'il n'est pas du tout de bon à dire parce que de tout ce qui précède là, nous pouvons déjà dresser un bilan. Alors qu'on fait 10 ans et jusque là, on ne rend qu'un seul jugement et le bilan est clair. Je pense que ce n'est pas du tout de bon à dire. Et j'ai conclu à dire ceci. L'avenir de la justice congolaise, monsieur le journaliste, ne dépend pas seulement de la Fédéron. Moi, je pense que la grande bataille qui doit engager tous les citoyens congolais est de faire preuve d'une certaine volonté, envie de se mettre d'encore de regarder ensemble dans la même direction pour promouvoir la justice de dans notre pays. Et je pense que c'est ce que je voudrais dire par rapport au sujet du jour.
Merci beaucoup, Josué. Nous retenons que vous posez, disons, le problème, là, le problème de la faiblesse juridique du statut des Roms. Et vous mentionnez que pour rendre efficace le fonctionnement de la CPI, il a fallu que le statut des Roms puisse doter cette institution d'une police pour vraiment faire le suivi. Merci. Josué, Edemanga, vous êtes à Boutembo. Bonjour Edemanga.
Oui, bonjour. J'ai d'abord commencé par être plus correctif et c'est Edemanga.
Edemanga. Voilà, vous êtes à Boutembo. Oui, alors qui vous?
Ok, ça va. Oui,
voilà, on vous accorde la parole.
Le sujet du jour. Hein. Moi, je dirais que je vais me concentrer d'abord sur la justice en RDC parce que vous voyez, à cette dernière fois, la justice en RDC, aucun maire à venir sera pour la justice congolaise, et pas plus que la justice est pour la couverture de grandes personnalités. Quoi. La justice congolaise est derrière le maître c'est pour la condamnation. Vous voyez, si je me pose cette question, parce que vous voyez, assez de méta, la vérité est assez de se connaître à partir de la situation de Ferbe, etc. Où sommes-nous aujourd'hui avec l'affaire CDA pendant que la vérité est déjà connue? Le mandat qui a été lâché contre Bosco Ntaganda. Le gouvernement s'est endormi sur le dossier. Alors, c'est pas la CPI au procès CPA et Bosco Ntaganda.
Merci beaucoup, Edebaga. Rachidi, vous êtes à Kindu. Bonjour, Rachidi.
Oui, bonjour. Bonjour tout le monde et bonjour les auditeurs de la radio Okapi.
Vous avez la parole, Rachidi.
Bon, d'abord, je vais commencer par féliciter et souhaiter une longue vie la CPI. C'est une bonne chose, c'est-à-dire que c'est l'intimité pour les criminels du monde. Mais néanmoins, nous avons un peu de regrets sur certaines choses. Parce que si nous regardons bien, ce pays s'attaque aux Africains, et pourtant, il y a des criminels de ils sont là impunis, les criminels de Palestine, les criminels de Liban, ils ont largué 10 millions de bombes pour chercher Hezbollah. Là, on les cherche pas. Voilà aussi ça, c'est un regret. Exemple, en Libye, où on égorgeait les Noirs, même Abdou Diouf l'a dit. Voilà, ils sont restés infinis. Alors, moi, je pense que la CPI devait quand même changer la nomenclature pour qu'on l'appelle Cour pénale africaine. Ça serait une bonne chose que des palais internationaux pendant qu'au niveau du monde, il y a certaines personnes qui restent infinies.
Voilà, merci beaucoup Rachidi. Malonga, vous êtes au banc de Nouville. Bonjour.
Bonjour, monsieur Gilles.
Voilà, Malonga, vous avez suivi vos prédécesseurs. Est-ce qu'aujourd'hui, s'il faut faire des analyses par rapport au statut des Roms, 10 ans après, quel avenir, selon vous, pour la justice congolaise? Est-ce que vous pensez que la coopération peut encore exister entre la CPI et l'État congolais?
Ok, merci. Je félicite d'abord la CPI et tout ce qu'il est en train de faire dans tous les pays en conflit. Mais pour l'avenir de notre justice, je vois que d'abord, il faut que notre justice elle-même se supporte et se justifie comme il faut. Puisque la CPI est la Cour pénale internationale. Et la CPI s'intéresse du monde entier, selon la justification de l'international. Mais je vois que la justice de la CPI, c'est comme patiente. Si nous voyons vraiment qu'il faut condamner tout le monde, condamne déjà le Rwanda, qui agresse notre pays. Bon, qu'est-ce que la CPI attend pour agir directement, concrètement. Parce qu'il a confié encore la charge au gouvernement congolais. Or, le gouvernement congolais est incapable d'arrêter Bosco Kangane, d'arrêter les petits cols et les sociétés à l'est du pays. Comment est-ce que la CPI est incapable de...
Voilà, Malonga, là, voilà, on vous saisit pas très bien et on comprend pas ce que vous dites. Merci d'avoir appelé, les temps que nous puissions avoir une bonne qualité de la liaison téléphonique. On va revenir à vous. Merci Malonga, 081-890-4339 pour participer à ces débats.
Parole aux auditeurs.
Pascal Turlin, vous êtes conseiller en coopération internationale au bureau du procureur de la CPI. Vous avez suivi les uns et les autres. Hein, et s'il faudrait que nous revenions encore sur ce qui a été dit, on prendra par exemple l'intervention de tout à l'heure de Josué, hein, qui parle de la faiblesse de statut des Roms, qui selon lui devait doter la CPI d'une police. Alors comment vous réagissez ?
Oui, un certain nombre de questions. Je voulais d'abord remercier, si je puis dire, les différents auditeurs qui ont souhaité un bon anniversaire à la Cour, et puis leur dire également que l'anniversaire de la Cour, c'est aussi l'anniversaire de tous les pays qui sont partis au statut de Rome. 121 États partis au statut de Rome. La Cour existe par ces États, pour ces États, et nous sommes là pour répondre aux demandes de justice qui sont exprimées par les populations d'un certain nombre d'États où la justice est compliquée pour des raisons parfois matérielles, des raisons parfois politiques. Mais donc cet anniversaire, c'est un anniversaire que nous devons partager ensemble. Les 10 ans de la Cour, c'est 10 ans d'expérience commune de la justice internationale et des populations, des autorités, des États dans lesquels cette justice intervient. Je crois que c'est important de le rappeler. Maintenant, s'agissant de la question spécifique de Josué sur la faiblesse du statut de Rome, lorsque les États ont mis en place la Cour pénale internationale, ils lui ont donné le mandat d'exercer la justice, ils ne lui ont pas donné de forces armées. Je crois que ce serait un petit peu contradictoire d'espérer qu'une institution judiciaire puisse ensuite arriver sur le territoire de certains États avec des policiers et puis faire ce que bon lui semble sur le territoire de ces États. Dans le système international tel qu'il existe, l'entité souveraine, c'est l'État. Les États sont le cadre d'expression des volontés populaires, les États sont le lieu dans lequel les élections se passent, ils ont des représentants élus. La Cour pénale internationale est une institution judiciaire. Elle n'a pas de représentants élus, même si elle a une assemblée des États partis derrière elle qui la soutient et qui lui donne son budget. La Cour pénale internationale n'a pour mandat que d'aider ces États dans la poursuite des auteurs de crimes qui ne peuvent pas être poursuivis au niveau national. C'est la police de ces États-là qui doit procéder aux arrestations. C'est les autorités nationales qui sont responsables des arrestations. Alors j'ai entendu plusieurs questions concernant Bosco Ntaganda. Dans certains cas, on l'a vu avec l'armée de résistance du Seigneur dans le nord de l'Ouganda. On le voit aujourd'hui avec Bosco Ntaganda, dans une certaine mesure également avec Sylvestre Munachumura dans l'est de la République démocratique du Congo. Il y a des difficultés pratiques à procéder à ces arrestations. Je crois que la volonté aujourd'hui est là de mettre fin aux crimes qui ont été commis par les FDLR qui, selon nous, ont commis des crimes sous la responsabilité en particulier de Sylvestre Munachumura. Je crois qu'il y a une volonté de mettre fin aux crimes qui sont commis par Bosco Ntaganda. Il y a eu des moments différents dans le passé. Il y a eu une volonté d'arrêter M. Bosco Ntaganda. Il y a eu ensuite eu des questions politiques qui se sont posées dans la résolution des tensions qu'il pouvait y avoir dans la région où M. Bosco Ntaganda a été impliqué. Selon nous, M. Bosco Ntaganda doit être arrêté.
Pascal Turlin, vous ne voulez pas vous couper. Aujourd'hui, vous avez parlé des États qui font la demande. Est-ce que pour les cas d'espèce, pour les cas Bosco Ntaganda, la République démocratique du Congo avait réellement fait une demande en bonne et due forme pour l'arrestation de Bosco Ntaganda?
Alors, il faut distinguer deux choses. Hein. Les États demandent à la Cour pénale internationale d'enquêter dans une situation. Donc, sur une situation qui comprend, pour la RDC, l'ensemble du territoire congolais. La CPI enquête sur la situation en République démocratique du Congo depuis le 1er juillet 2002. Une fois que cette demande est faite, et si la CPI, le bureau du procureur, décide effectivement d'ouvrir une enquête, l'opportunité des poursuites, le choix des personnes à poursuivre, dépend uniquement du bureau du procureur sous le contrôle des juges. L'État n'a plus rien à voir avec les choix, les orientations pénales qui sont prises par le bureau du procureur. L'État nous dit, s'il vous plaît, venez nous aider à enquêter sur ces crimes. crime. Une fois que cela est fait, l'État coopère avec la Cour, mais le bureau du procureur choisit qui sont les personnes qu'ils vont poursuivre en fonction des éléments de preuve qu'ils rassemblent, des éléments de preuve à charge et à décharge, et des dossiers qu'ils constituent. Et les juges vont ensuite valider ou non les choix du procureur en émettant des mandats d'arrêt ou non, et puis ensuite en confirmant les charges ou non.
L'inquiétude des auditeurs, je ne sais pas si vous avez compris, par exemple, l'intervention tout à l'heure de Dr Richard, c'est comme pour dire, aujourd'hui, c'est la politique de deux poids, deux mesures. Pour les uns, ça s'est fait rapidement, mais pour Bosco Ntaganda, c'est les choses, ça s'attire un peu à longueur. Quelles sont les raisons poussées par les autorités, notamment quand il s'agit des problèmes de Bosco Ntaganda?
Alors effectivement, certaines arrestations interviennent plus rapidement que d'autres. Dans certains cas, comme je l'ai dit, il y a des problèmes pratiques qui se posent. En l'occurrence, aujourd'hui, personne n'ignore la situation de Bosco Ntaganda et sa localisation géographique au moins approximative. L'on pense que Bosco Ntaganda se trouve dans le Nord Kivu, qu'il navigue peut-être entre plusieurs États aujourd'hui, qu'il se déplace fréquemment. Nous comprenons, parce que nous suivons la situation, qu'il y a des difficultés militaires pratiques dans la région, que certains groupes armés contrôlent peut-être certaines portions du territoire, et qu'il y a donc des difficultés pratiques à mettre la main sur M. Bosco Ntaganda. Nous n'avons eu de cesse de dire depuis l'émission du mandat d'arrêt en 2006 contre M. Bosco Ntaganda qu'il fallait l'arrêter le plus rapidement possible, que M. Ntaganda était selon nous un criminel et qu'il ne pouvait pas être utilisé comme un médiateur, comme un faiseur de paix. Que des personnes qui avaient une telle fiche d'identité judiciaire, j'allais dire, ne pouvaient pas être considérées comme des médiateurs et des pacificateurs. Les faits nous ont donné raison dans une certaine mesure et je le regrette. Si M. Bosco Ntaganda avait été arrêté plus tôt, ce qui n'a pas semblé possible, peut-être que nous aurions évité d'autres souffrances pour les populations des Kivu. Alors aujourd'hui, la situation est de nouveau une situation de tension, de nouveau une situation d'affrontement militaire au moins sporadique entre des groupes armés et les forces congolaises. Nous espérons que nous aboutirons le plus rapidement possible à pouvoir mettre la main sur M. Bosco Ntaganda. Nous l'invitons à venir se présenter à la Cour pénale internationale pour répondre aux accusations que nous portons contre lui.
Voilà. Alors, Rachidi est revenu sur notre inquiétude de tout à l'heure sur la Cour pénale africaine. Donc, d'ailleurs, à l'occasion de cette célébration, il propose d'ailleurs, par rapport à la faiblesse constatée au niveau du statut des Roms et aussi dans l'exécution de certains mandats, que la Cour puisse simplement changer d'appellation au lieu de la Cour pénale internationale, qu'on parle plutôt de la Cour pénale africaine.
Ouais, je crois que confirmer une confusion. Je crois que ce serait une grave mésinterprétation de ce qu'est la Cour pénale internationale. La Cour pénale internationale a vocation universelle. Elle est aujourd'hui composée de 121 États sont partis au statut de Rome. Parmi ceux-ci, le continent africain est très bien représenté. Il y a effectivement une demande forte de justice qui s'est exprimée. Les États ont ratifié le statut de Rome. Ce sont des États souverains qui ont eux-mêmes choisi de faire partie de la Cour pénale internationale, qui ont reconnu la valeur, la validité, la valeur ajoutée que pouvait apporter la Cour pénale internationale dans la réponse judiciaire à apporter aux souffrances de leur population. Donc la Cour pénale internationale est une réponse à une demande qui a été exprimée par les États. C'est un petit peu facile que des États disent d'une part nous demandons à la Cour d'être là parce que nous avons un besoin de justice, et qu'ensuite il y ait des critiques qui soient exprimées en disant ah oui, mais la Cour a répondu positivement, ça n'est pas normal. Au contraire, c'est tout à fait normal. Et je voulais dire aussi, je voulais ajouter que la Cour pénale internationale ne se penche pas que sur le continent africain. Nous avons aujourd'hui des examens préliminaires qui ont lieu, qui se penchent sur les situations en Afghanistan, sur la situation au Honduras, en Colombie, en Géorgie, en Corée du Sud. Nous avons travaillé sur la situation en Palestine, nous avons travaillé sur la situation en Irak, sur la situation au Venezuela. Donc la Cour s'intéresse à l'ensemble des États qui sont des États parties. Maintenant, il est vrai qu'un certain nombre d'États africains ont demandé à la Cour d'intervenir directement, ce que nous avons fait parce que nous avons répondu, nous avons estimé qu'il y avait un besoin qui s'exprimait et qu'il fallait répondre positivement à ce besoin.
Pascal Turlan, conseiller en coopération internationale au bureau du procureur de la CPI, nous traitons avec vous les sujets sur le statut des Roms 10 ans après, quel avenir pour la justice congolaise. Merci à tous les auditeurs qui nous ont rejoints, David qui est à Kinshasa, Marcel qui est à Kisangani, et vous autres qui souhaiterez également participer à ces débats, composez les 081-890-6315.
Lorsque le soleil se couche, toutes les infos se retrouvent sur la radio de la paix. Journaux en français, Swahili, Chiluba, Kikongo et Lingala. Synthèse de l'actualité africaine et internationale, économie, paroles d'enfants, rencontres avec les Congolais de l'étranger, inforoutes et les infos sport toutes les demi-heures. Lorsque le soleil se couche, 17 à 19h, bienvenue dans Okapi Soir.
Voilà, vous pouvez également nous rejoindre en composant les 081-890-43-39. Il y a une inquiétude qui était, au fait, à laquelle on n'a pas encore répondu, c'est celle de Dr Richard, hein, qui a parlé de la paix et la justice dans les États. Il a évoqué également la question des mapping. Qu'est-ce que la CPI dit par rapport à ça? Et puis, il a insisté sur la justice congolaise. Bon, selon lui, il y avait plus d'attentes. Vous avez parlé d'ailleurs de la valeur ajoutée pour plus d'un Congolais. La valeur ajoutée, ça aurait été l'impunité, en fait, la lutte contre l'impunité qui devait normalement être efficace. Mais on se rend compte que malgré la coopération avec la CPI, rien, bon, en fait, dans ce sens-là, de pouvoir restaurer la justice congolaise par rapport à déjà des actions qui sont menées, Pascal Turlin.
Oui, j'ai entendu ces inquiétudes et ces interrogations concernant la question du mapping en particulier. D'une part, il faut bien voir que le projet du mapping a rendu un rapport qui porte sur une période qui va bien au-delà de la compétence de la Cour pénale internationale. Comme vous le savez, la Cour pénale internationale n'est compétente qu'à partir du 1er juillet 2002. C'est un fait juridique, c'est un fait légal. Le statut de Rome est entré en vigueur le 1er juillet 2002. La Cour n'a pas de compétence rétroactive. Elle ne peut pas étendre sa compétence avant son existence. Voilà. Donc la Cour n'est compétente qu'après 2002. Une fois cela posé, le bureau du procureur enquête sur les crimes qui sont commis sur le territoire après 2002. Il rassemble des informations. Lorsque nous estimons que des informations concordantes font état de responsabilité possible pour des crimes parmi les plus graves, à ce moment-là, nous demandons l'émission de mandat d'arrêt. C'est ce que nous avons fait. Il n'y a pas de doute. Aujourd'hui, nous sommes en 2012. Si les auditeurs se rappellent, et ils se rappellent probablement bien mieux que moi, en 2003, la situation dans l'Ituri à l'été 2003 était catastrophique. Une situation de crime grave avait été notée. Nous avons enquêté sur ces crimes et nous avons amené devant la justice un certain nombre de personnes, Thomas Lubanga, Bosco Ntaganda, dont nous attendons l'arrestation, et puis Germain Katanga et Mathieu Ngoudjolo. La justice prend du temps, mais la justice, finalement, rend le droit, et nous avons aujourd'hui la première condamnation de M. Thomas Lubanga le 14 mars dernier. Concernant la justice congolaise, l'existence de la CPI ne peut pas défausser la justice congolaise de ses responsabilités. Le statut de Rome le rappelle lui-même, priorité est donnée aux autorités nationales, il doit y avoir des poursuites au niveau national pour les crimes les plus graves de la compétence de la Cour. La Cour intervient lorsqu'il y a des difficultés qui se posent. Jusqu'à aujourd'hui, la Cour continue ses enquêtes en République démocratique du Congo, parce que la complexité des crimes, la difficulté sur le terrain, les tensions qui sont récurrentes dans certaines parties du territoire congolais justifient la présence de la Cour pénale internationale pour assister les autorités congolaises. Il y a ensuite une certaine forme de développement de la justice qui doit se faire, prenant exemple sur le modèle de la Cour pénale internationale. Lorsque nous aurons en République démocratique du Congo une loi de mise en œuvre, une loi d'application du statut de Rome qui permette de juger ces crimes-là en droit national de façon cohérente et stable, ce sera un grand pas de franchi. Il y a déjà eu, d'ailleurs, des jugements qui ont été rendus, des procédures qui ont eu lieu sur des crimes de la compétence de la Cour devant les juridictions nationales.
Au niveau du Parlement, il y a eu d'ailleurs des discussions sur la mise au pied d'une juridiction qui pourrait, au fait qu'un mandat juger la question liée aux droits de l'homme, aux droits humains, par rapport donc, je crois que le débat est au niveau du Parlement. On va prendre David et Pascal. David est à Kinshasa et Marcel est à Kisangani. Bonjour David.
Bonjour.
Vous avez la parole, David.
Je pense que...
Voilà, David, dommage, vous sentez vraiment un peu coupé. Voilà. Nous prenons plutôt Marcel, le temps que la ligne puisse s'arranger. Marcel, bonjour. Voilà, Marcel, vous êtes à Kisangani. Bonjour, Marcel. Voilà, Marcel non plus n'est plus en ligne. Voilà, on était à la question de docteur Richard qui parlait du mapping, et puis qui a évoqué également la question du massacre de Bundu à Congo. Est-ce que au niveau de la CPI, cette question est suivie aussi de près?
Alors la Cour, le bureau du procureur, comme je l'ai dit, enquête depuis maintenant juin 2004, donc depuis 8 ans sur la situation en République démocratique du Congo. Nos enquêtes portent sur l'ensemble, notre examen de la situation porte sur l'ensemble du territoire, et nous allons ensuite ensuite nous focaliser sur les crimes les plus graves et nous allons essayer d'identifier les plus hauts responsables des crimes les plus graves. Jusqu'à présent, nos enquêtes nous ont amené à conclure que certains des crimes les plus graves avaient été commis, selon nous, par l'UPC-FPLC, par le FRPI-FNI en Itsouri, que certains des crimes les plus graves avaient été commis par les FDLR dans la région des Kivu, et donc nous avons demandé l'émission de mandat d'arrêt. Ces enquêtes prennent du temps, ces enquêtes demandent énormément de ressources. La Cour pénale internationale est un modèle de procédure qui vise à l'exemplarité en termes de procédure pénale, de procédure judiciaire. Donc tout cela prend du temps, mais nous continuons notre travail. Et si des informations nous sont envoyées, si des informations nous parviennent sur des crimes parmi les plus graves qui auraient été commis et qui ne seraient pas poursuivis au niveau national, nous avons toute l'attitude pour effectivement nous intéresser à ces crimes.
Nous avons David qui est revenu. Donc David, vous êtes à Kinshasa. Bonjour David.
Bonjour. Ma question, c'est, je crois que la CPI prend trop de temps pour résoudre le cas Bemba. Nous voulons bien savoir s'il est coupable ou pas. S'il n'est pas coupable, qu'il revienne au pays. Nous avons besoin de lui. S'il est coupable, qu'on le condamne. Mais on garde son procès pendant trop longtemps. On est en train de lui faire perdre du temps. On veut savoir ce qui se passe avec Monsieur Bemba.
Voilà, merci. Donc, vous souhaitez avoir le carnet. Merci, David. Nous prenons Séraphin qui est à Bujumbura. Séraphin, vous êtes avec nous. Bonjour.
Oui, bonjour à JRS et à l'invité qui est au studio.
Vous avez la parole, Séraphin.
Oui, merci de l'opportunité que m'a accordé une fois de plus à passer à cette émission. Moi, personnellement, je voudrais d'abord réagir aux propos de notre invité qui est au studio, parce que personnellement, je l'ai suivi avec beaucoup d'intérêt, et j'ai toujours constaté que la Cour est la Cour politique internationale, non la Cour pénale internationale, pour des raisons, non seulement sur la situation de son Excellence Jean-Pierre Bemba, comme vient d'évoquer celui qui vient de me précéder,
oui, David,
et
qui a appelé
la configuration de l'article 16 de la Cour du statut de Rome. Parce que si vous lisez l'article 16 du statut de Rome, ça prouve à suffisance que la Cour pénale internationale... Parce qu'on dit dans cet article que non, le Conseil de sécurité peut suspendre l'arrestation de la poursuite d'un auteur qui a commis de graves crimes. Alors qu'on soit préalable, c'est les membres permanents du Conseil de sécurité qui sont en train de marquer les différentes rébellions au niveau de l'Afrique. Alors, une fois avoir ce privilège-là d'arrêter la poursuite, vous ne voyez pas que c'est un privilège accordé aux membres du Conseil de sécurité, donc aux membres des pays permanents du Conseil de sécurité, qui sont en train d'alimenter les différentes rébellions au niveau de l'Afrique. Ça, c'est la première des choses. Et la deuxième des choses, il y a Dr Richard, que je salue d'ailleurs en passant, qui a demandé à nos rapports au mapping, heureusement que l'invité vient de répondre. Mais moi, je voulais aussi poser une petite question à notre invité. Nous savons tous, lors de la clôture de la campagne électorale en RDC, on a tué le gens à bout portant à Kinshasa. Il y a eu même plus de 15 morts. Qu'est-ce que la Cour dit, qu'est-ce que la Cour attend pour entreprendre des enquêtes? C'est ça où nous déduisons que la Cour pénale internationale n'est pas une Cour pénale internationale, c'est une Cour politique internationale. Parce qu'il y a des poids de mesure au sein de cette Cour pénale.
Oui, Séraphin, quand vous parlez, vous évoquez la situation lors de la clôture de la campagne, vous faites mention à quel rapport?
Bon, effectivement, nous avons suivi tous à la radio Capi, nous avons suivi tous et toutes les chaînes internationales. Il y a eu des morts, plus de 15 morts lors de la descente de l'État au niveau de l'aéroport. On a tué à bout portant le fidèle ou les partisans de l'UDPS. Il y a eu 15 morts. Il y a plusieurs rapports. Il y a des journaux qui ont écrit, il y a des rapports qui ont écrit. Et là, ce pays, le procureur Moreno a dit qu'il suivait des prix.
Voilà, dommage.
Du Congo, des crimes qui passeront. Mais qu'est-ce que la CPI attend maintenant pour entreprendre cette enquête? Parce que tout le monde sait, il y a eu des morts, plus de 15 morts qu'on a tués à bout portant. Et nous connaissons celui qui a tué à bout portant. Mais pourquoi la Cour traîne pour mener des enquêtes?
Merci beaucoup.
C'est la politisation de la Cour que nous fitillons.
Voilà, merci beaucoup, Séraphin. Donc, votre inquiétude tourne autour de la politisation de la Cour. Et je crois que notre invité pourrait nous donner quelques éclairages là-dessus. La CPI, vous avez évoqué les conseils de sécurité. Vous avez mis aussi un accent sur la situation qui a prévalu lors de la clôture de la campagne électorale à l'RDC dans la campagne de 2011. Pascal Turlan, réaction.
Oui, c'est une question qu'on entend de façon régulière. Comme je l'ai dit auparavant, la Cour pénale internationale est une institution judiciaire. Son mandat est proprement judiciaire, elle est indépendante, le procureur est totalement indépendant, il est indépendant par statut, le statut lui impose cette indépendance, il est indépendant par rapport aux autres organes de la Cour, il est indépendant par rapport à toute intervention extérieure, il ne reçoit pas d'instruction, il ne peut pas recevoir de demande de la part de qui que ce soit. Lorsqu'une situation est déférée au procureur, c'est ensuite à lui qu'il revient en toute indépendance de déterminer quels sont les crimes qui justifient son intervention et qui justifient des demandes de mandat d'arrêt. Alors je voudrais rappeler plusieurs points. Lorsqu'il y a eu la campagne électorale l'an dernier, nous avons entendu effectivement qu'il y avait des craintes qui s'exprimaient sur des violences possibles. Nous avons émis des communiqués de presse, nous avons été présents, nous avons parlé, nous avons expliqué que si jamais des crimes d'une certaine ampleur devaient être commis, ils seraient passibles de la Cour pénale internationale, afin d'essayer de rappeler à tout le monde que le rôle de la CPI, c'est aussi, en partenariat avec les autorités judiciaire national, de rétablir ce qu'on appelle un état de droit, de rétablir confiance dans le système national, dans le système judiciaire national, et de faire comprendre que la politique ne se passe pas avec des armes, la politique ne se fait pas avec des armes, elle ne se fait pas au détriment des populations civiles, elle se fait par des arguments qui sont des arguments politiques et qui se font lors de débats, et ces débats doivent être des débats oraux ou écrits, mais pas des débats armés. Donc je crois que cela a eu une certaine influence sur la situation, et nous nous en félicitons. La situation électorale est une situation qui entraîne souvent un certain nombre de violences. Nous avons vu notre enquête sur la situation au Kenya, notre enquête sur la situation en Côte d'Ivoire porte sur des situations de violences post-électorales. Maintenant, je voudrais rappeler ce qui est très important, c'est que la Cour pénale internationale a un mandat qui est limité à un certain nombre de crimes. La Cour pénale internationale ne travaille que sur ce qu'on appelle les crimes les plus graves, qui sont des crimes d'inquiétude pour la communauté internationale. Donc on appelle ces crimes, ce sont les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité, le crime de génocide. Pour que la Cour pénale internationale et le bureau du procureur en premier lieu chronologiquement décident de s'intéresser à un crime en particulier, il faut que sa compétence matérielle soit engagée, il faut donc qu'il y ait des éléments qui laissent à penser que des crimes de guerre ont été commis. Ça ne semble pas être le cas dans la situation à Kinshasa l'an dernier, il n'y avait pas de situation de guerre à proprement parler. Il faut que sinon des crimes contre l'humanité semblent avoir été commis. Des crimes contre l'humanité impliquent un plan généralisé, une attaque généralisée ou systématique. Donc nous travaillons sur ces crimes.
Donc, il en vaut aussi pour la situation du massacre de Bundu dia Congo, tel que l'a évoqué Dr Richard.
Alors,
massacre
de Bundu dia Congo. Que ce soit pour cette allégation de massacre de Bundu dia Congo ou pour les allégations de crimes qui auraient pu être commis pendant la période électorale, nous ne souhaitons pas nous prononcer sur des faits particuliers, ça n'est pas notre travail. Notre travail, c'est justement en tant qu'institution judiciaire de rassembler des éléments, et uniquement lorsque les éléments à notre disposition nous permettent de penser que des crimes effectivement de notre compétence ont été commis, de faire une demande de mandat d'arrêt aux juges de la Cour pénale internationale qui décideront si oui ou non ils valident notre évaluation. Donc nous ne nous prononçons pas sur les crimes tant que nous n'avons pas abouti dans nos enquêtes et abouti à des mandats d'arrêt demandés aux juges et émis par les juges. Juste pour le mentionner, je crois que ce qui est important, c'est que la CPI n'est pas la seule institution judiciaire. Il faut que la population congolaise se tourne vers sa justice nationale. Il faut que la justice nationale prenne en main les allégations de crimes qui ont été commis et que des procédures soient ouvertes lorsqu'il y a de telles allégations.
Voilà, Pascal Turlin, nous rappelons que vous êtes conseiller en coopération internationale au bureau du procureur de la CPI. Avec vous, nous débattons sur le statut des Roms 10 ans après et quel avenir pour la justice congolaise. Étienne et James, James Etakalema et Étienne Aguemena, vous nous rejoignez. Bonjour Étienne.
Oh, bonjour à Dokapi, bonjour à tous les auditeurs de Gemela qui nous suivent sur 95.4.
Voilà, Étienne, vous avez la parole.
Ok, merci à M. Gilles. Vous savez, je commencerai par souhaiter d'abord bon anniversaire à la CPI, mais il est évident de déplorer certaines choses. Parce que vous savez, monsieur le journaliste, aujourd'hui la CPI totalise son 10 ans d'existence. Alors, quand nous prenons en terme d'un enfant, un enfant à l'âge de 10 ans, c'est un enfant qu'on peut déjà envoyer, c'est un enfant qui peut déjà être en 3e ou 4e école primaire. Mais aujourd'hui, nous constatons que les procédures ou les méthodes que la CPI utilise ne favorisent pas tellement à éradiquer l'impunité sur le plan international. Alors, je voudrais dire ceci, monsieur le journaliste, nous savons que depuis l'existence de la CPI, à peine 10 ans, sur plus de 20 de dossiers, il n'y a que le seul dossier de notre ami du Congolais, Thomas Lubanga, où le verdict venait d'être rendu. Et tous les restes des dossiers restent en suspense. Il y a la lenteur prolongée hein, dans les procédures juridiques de la CPI. 10 ans d'existence, il y a des gens qui sont arrêtés, qui sont présumés innocents d'ailleurs, mais qui sont là. On ne sait pas quels sont leurs sorts. Aujourd'hui, par exemple, si ceux qui ont mis déjà 5-6 ans à la CPI, le jour où le verdict tombera et que on va les blanchir, je ne sais pas quelles sont les méthodes mises en place ou quels sont les textes juridiques qui peuvent dire que voilà, parce que vous avez été arrêté ou gardé à la CPI illégalement, et est-ce que les textes sont en train de nous réserver comme solution là-dessus. Aussi, je voudrais déplorer donc, je suis d'avis avec les amis qui disent que la CPI risque de prendre une connotation de CPA, la Cour pénale africaine. Parce que ce n'est pas seulement en Afrique que les crimes ont été commis, ce n'est pas seulement en Afrique. Quand nous allons en Irak, par exemple, en Irak, en Israël, il y a des graves crimes qui ont été commis là-bas. Mais jusque-là, dans les 22 dossiers que la CPA est en train d'instruire, on n'a même pas fait allusion à des graves crimes causés dans d'autres continents. Mais s'il s'agit de l'Afrique, la CPI vraiment sort tous ses effets et met toutes les machines, toutes les batteries en marche pour pouvoir rechercher les dirigeants africains, soit qu'ils sont en exercice, et ainsi de suite. Donc je voudrais, à travers cette émission, interpeller la conscience des dirigeants africains. Que aussi longtemps qu'ils demeurent, ils continuent à ratifier ou à garder ces partenariats de
statut avec la CPI.
Donc, ils sont en train de rendre un très mauvais service aux Africains, aux Congolais en particulier.
Donc, Étienne, s'il vous plaît. Donc là, vous voyez un danger que la RDC puisse rester partenaire à la CPI. Hein. Vous craignez l'avenir de la justice congolaise. Allô, Étienne.
Je suis, oui.
Oui, je disais donc.
Il y a certaines grandes puissances hein, qui continuent jusqu'aujourd'hui à protéger ceux qui commettent des crimes au vu et aussi de la CPI qui existe. Donc, je pense que les méthodologies, les techniques doivent être vraiment revues de sorte que la CPI puisse nous donner vraiment éradiquer hein, l'impunité. Sur le plan international, c'est
voilà, merci Étienne d'avoir appelé de Gemena. Nous prenons rapidement James qui est à Kalima et Christian à Kwandroma. Kwandroma, là nous sommes dans la province orientale. James, vous êtes à Kalima, vous avez la parole.
Ah oui, bonjour Monsieur J.R. Ngembo, bonjour à tous les auditeurs de la radio Kati, c'est James de Kalima.
Allez-y James.
Ah oui, mais d'une manière je voulais un peu savoir un peu notre invité. La manière dont la CPI procède même à la récolte de ces données, ou qui peut quand même constituer les faits de défraction, qu'il y a assez de criminels qui y prennent ici, mais qui ne veulent pas venir les récupérer. C'est pas si j'étais quand même avec rapidité tous ces gens-là, c'est présumé, même parce qu'ils n'ont pas encore été jugés, c'est présumé au terme de tous ces crimes, je pense qu'ils pourraient les faire avec rapidité et récupérer ensuite les autres. Est-ce qu'il y a des affaires qui datent déjà? Ça fait 10 ans, mais qu'il n'y a même pas de bilan. Il n'y a même pas de bilan de toutes ces arrestations qui sont faites ici au Congo, mais on ne sent pas vraiment que la CPI nous survient vraiment à beaucoup de choses, à des secours pour qu'on puisse se sentir à l'aise, à la transformant même de ces criminels qui font des crimes ici en République démocratique du Congo. Et en plus aussi, j'aimerais aussi savoir, auprès de notre invité, parmi ces États qui ont signé à l'accord là de Rome pour la CPI, combien des États africains, il n'y a plus que aussi des États européens qui ont signé pour cela et que les crimes se font là-bas. Ce n'est qu'à la République démocratique du Congo et aux États africains qui se viennent à cela. C'est là que j'ai pu me résumer quand même.
Merci James. Christian, vous êtes à Kwandroma. Bonjour Christian.
Bonjour Jeff.
Est-ce que vous partagez les avis de vos prédécesseurs?
Impossible ça. Bon, ma question, je ne procéderai pas de poser des questions à l'évité. La question se formule comme suit. Est-ce que la CPI protège les pays qui ont ratifié la statue de Rome? Si oui, l'évité nous répond. Et comment? Et deuxième question, s'agissant de l'arrestation, quand est-ce que la CPI arrête? Parce qu'aujourd'hui, par exemple, nous sommes en train d'être attaqués par le Rwanda. Si demain, nous allons réagir, poursuivre les agresseurs jusqu'à l'heure de mer, est-ce que c'est alors que la CPI va commencer à chercher les défenseurs, ceux-là qui se sont défendus pour arrêter, ou soit ceux-là qui ont attaqué pour arrêter? Donc, c'est dans ce sens-là que j'ai posé la question, la première question. Est-ce que la CPI protège les pays qui ont signé les statuts de Rome? Et pour terminer, c'est comme si la CPI s'occupe seulement des Africains, particulièrement.
Voilà, donc vous revenez à la, disons, à une inquiétude qui a été déjà posée par vos prédécesseurs. Hein. Merci Christian, mais nous retenons que là vous parlez de la RDC qui, à la longue, un jour pourrait se faire justice hein, par rapport à la situation qui prévoit actuellement à l'Est. Qu'est-ce que la CPI, quelle est la position de la CPI par rapport à cette position de la RDC dans les jours à venir? Voilà, Michel, vous êtes à Matadi. Bonjour Michel.
Oui, bonjour papa.
Voilà, vous avez la parole Michel.
Oui, j'ai voulu poser des questions à l'invité. Et la première, concernant le cas de Jean-Pierre Bemba. Et si aujourd'hui, il arrivait que Bemba soit libéré, qui va les dédommager pour tous ces temps qu'il a passé sous les barreaux de la CPI? Est-ce que c'est la CPI ou l'État congolais? La deuxième question, les peuples congolais constatent comme si nous sommes devenus un pays mis à part, parce que les deux autres étaient tellement trop. Nous avons suivi dans la province du Bas-Congo, avec les problèmes de Bunga-Congo. Il y a des gens qui ont perdu de leur vie. Si nous voyons l'exemple de la Côte d'Ivoire, les événements sont passés, mais directement il y a eu des enquêtes. Mais concernant ce qui s'est passé dans la province du Bas-Congo, il n'y a rien. Je ne sais pas si la CPI fait déjà des enquêtes d'une manière discrète ou c'est un élément qui a été oublié. C'est ça, ce sont là les questions que je vous dis avoir un peu d'éclaircir.
Voilà, merci, parce que vous, là vous nous avez pris en cours de l'émission. Notre invité est revenu sur notamment la situation qui a prévalu d'ailleurs lors de la clôture de la campagne électorale de 2011. Et il a évoqué également la question sur le massacre, ça dit massacre, donc comme vous l'avez dit, de massacre de Boudidia Congo avec le procès qui s'en était suivi. Bon, voilà, on pourrait quand même revenir pour vous apporter quelques éclairages là-dessus. Nous prenons d'abord Val qui est à Kinshasa. Val, bonjour.
Bonjour, monsieur. Comment vous allez?
Oui, nous allons bien. Et vous?
Non, nous allons aussi très bien.
Voilà, vous avez la parole, Val.
Oui, ce que je pourrais ajouter sur la CPI, vraiment, c'est la situation qui se passe à notre pays. Est-ce que la CPI fait le droit ou exerce la somme d'argent qu'il reçoit chez des dirigeants congolais pour couvrir certains dossiers judiciaires?
Voilà, on ne sait pas si d'où vous tirez toutes ces informations. Hein, Val. Là, vous parlez de la corruption, hein, qui, en fait, les autorités congolaises, semble-t-il, selon vous, qui se livrent à la corruption auprès de la CPI pour que les choses s'étirent en longueur, notamment, comme l'a dit Michel, avec cette histoire de Jean-Pierre Bemba, et aussi les dossiers d'autres Congolais qui doivent répondre de leurs actes auprès de la CPI. Merci, Val. Nous rappelons à nos auditeurs qui souhaitent participer à ces débats qu'ils peuvent composer déjà les 081-890-4339.
Parole aux auditeurs.
Pascal Turlan, nous avons suivi une longue série des auditeurs. Hein. Les inquiétudes sont diverses. Et si je prends par exemple la question ou l'intervention de tout à l'heure des Christians qui parlent de la protection, les caractères protectionnistes de la CPI. Est-ce que la CPI protège réellement le pays ou les États qui sont des partenaires?
Je vais répondre que dans les faits, oui, le fait que les États aient choisi de ratifier le statut de Rome de la Cour pénale internationale donne à ces États la possibilité de s'en référer à une justice internationale, à la Cour pénale internationale, lorsque ils se rendent compte qu'ils ne sont pas en mesure de juger, de poursuivre même des crimes parmi les plus graves. Donc quelque part, la CPI constitue une protection pour les populations de ces États qui seraient victimes de ces crimes les plus graves. Ces États, ces victimes, ces personnes peuvent être victimes de crimes. Elles se tourne vers l'État. L'État n'a pas les moyens, à un moment donné, de répondre judiciairement à ces demandes, ou l'État n'a pas la possibilité de le faire pour X ou Y raison. À ce moment-là, il peut demander à la CPI son intervention. C'est ce qui s'est passé en RDC, en République centrafricaine. C'est ce qui s'est passé plus récemment en Côte d'Ivoire, où le président Alassane Ouattara a demandé à la Cour d'intervenir, alors même que la Côte d'Ivoire n'était pas un État parti au statut de Rome, qu'il avait simplement accepté la compétence de la Cour. Donc oui, quelque part, je pense qu'il y a un effet de protection. La justice est ici pour répondre aux demandes des populations et pour amener devant la justice ceux qui ont contribué aux souffrances de ces populations.
Voilà, et Étienne qui a parlé de procédures qui ne favorisent pas l'éradication de l'impunité sur le plan international, que répondez-vous à Étienne?
Alors je crois que la question d'Étienne et beaucoup d'autres questions aujourd'hui portaient un petit peu sur la lenteur de la procédure et sur le temps que prennent les affaires devant la Cour. Je crois qu'il faut bien se rappeler qu'il s'agit de procédures qui sont complexes. Dans les 10 ans qui se sont passés, la Cour a quand même amené devant la justice 3 personnes dont le procès s'est terminé. Monsieur Lubanga a été condamné en première instance le 14 mars dernier. La décision Ngoudjolo et dans l'affaire Ngoudjolo et Katanga doit intervenir dans les prochains jours ou les prochaines semaines. Donc nous avons des procès qui, en tout cas au niveau de la première instance, se sont terminés. Les procédures devant la CPI sont relativement longues, elles sont complexes. Cela répond aussi à un besoin de protection des suspects. Comme vous l'avez dit, comme un auditeur l'a très bien dit, ces suspects sont présumés innocents. Les droits de la défense sont fondamentaux. Les procédures devant la Cour prennent du temps aussi parce que la défense demande à avoir le temps de se préparer. Si on prend l'affaire dans l'affaire Jean-Pierre Bemba aujourd'hui, il a été remis à la Cour en juillet 2008. Nous sommes aujourd'hui en octobre 2012, mais nous en sommes à la phase de la procédure où ce sont les avocats de la défense, les avocats de M. Jean-Pierre Bemba lui-même qui sont en train de présenter leurs arguments et de faire venir des dizaines de témoins devant la Cour. Et je crois qu'il est très important que dans toute affaire judiciaire devant la Cour, la défense ait le temps de se préparer. Les juges sont garants de l'impartialité de la procédure et des droits de la défense, et c'est important aujourd'hui que la défense de M. Jean-Pierre Bemba puisse exposer ses arguments en long, en large et en travers s'il le souhaite devant la Cour. Donc ces délais ne sont pas dus spécialement à des raisons divines ou autres, ils sont simplement dus au temps dont on a besoin pour qu'une procédure calme, une procédure impartiale, une procédure juste puisse aboutir à la condamnation ou à l'acquittement éventuellement des personnes qui sont poursuivies devant la Cour.
Voilà, il y a Michel qui avait également une inquiétude par rapport au dommage, au dédommagement. Je ne sais pas, il a parlé de qui va dédommager Jean-Pierre Bemba au cas où il est libéré, est-ce la CPI ou encore l'État congolais. Bon, si on peut aller plus loin, peut-être pour dire que c'est une affaire qui concerne la République centrafricaine, mais comment ça va se passer au cas où la libération est obtenue?
Alors, je ne vais pas parler du cas de M. Jean-Pierre Bemba en particulier. L'affaire est en cours. Il n'y a aucune raison de penser aujourd'hui qu'elle va dans un sens ou dans un autre. Nous attendons la fin des débats, la fin des audiences et puis la décision des juges dans cette affaire. De façon générale, si une personne, s'il s'avère qu'une personne qui a été mise en détention préventive...
Pascal Turlin, on vous retient encore pour quelques minutes avant de conclure cette émission. Donc, nous vous retrouvons juste après le flash d'information. Et chers auditeurs, vous qui nous rejoignez, restez en ligne et tout à l'heure, nous allons vous retrouver.
Radio Okapi.
Le bulletin d'information Bibi Moukonkole.
Okapi.
Bonjour et merci d'être à l'écoute. Les membres du comité local permanent de conciliation, CLPC, du groupement Kamurunza dans le Nord Kivu vont désormais travailler dans un bâtiment neuf. Ce bâtiment de 3 bureaux construit avec les fonds du HCR a été réceptionné lundi à Sake, 27 km de Goma. C'est dans le cadre du STAREC, le programme de stabilisation et de reconstruction des zones sorties des conflits dans l'est de la RDC. Au total, ce sont 7 bâtiments qui ont été reconstruits en faveur des CLPC dans 7 groupements des territoires de Masisi, Rutshuru et Nyiragongo. Rosalie Zawadi pour les détails.
C'est le chef des groupements Kamurunza qui a réceptionné les bâtiments. Celui-ci est constitué d'une grande salle de réunion, du bureau du chef des groupements qui préside le comité local permanent de conciliation, ainsi que du bureau de l'animateur permanent du comité. Le comité local permanent de conciliation de Kamurunza est constitué de 24 membres issus de toutes les communautés vivant dans ces milieux. Marie Chemassi, chargée des missions du programme STAREC, estime que ces bâtiments facilitera le travail de ces comités qui se réunissaient souvent en plein air.
Régulièrement, ils doivent se réunir. Les ACER avaient trouvé qu'il était important qu'ils aient un bureau parce que dans le programme de stabilisation loué, et c'est vrai que les bailleurs peuvent payer pendant 6 mois, mais après cela, si les bailleurs ne payent pas, les CLPC risquent de se retrouver en difficulté.
Selon les délégués des ONI Habitat qui travaillent dans la résolution des conflits fonciers, plusieurs conflits des terres ont trouvé solution grâce au comité local permanent de conciliation dans les territoires des Massissi, Rutshuru et Nyiragongo. ONI Habitat avance les chiffres de 40% sur les milliers des conflits recensés. Il n'empêche que l'interface des politiques dans la gestion de ces conflits reste un obstacle dans le travail de ces comités. Goma, Rosalie Zawadi, Radio Okapi.
Et puis dans le Kasaï occidental, les agriculteurs producteurs du riz de Bukonde, mission catholique située à 72 km au sud de Kananga, dotée d'une décortiqueuse. L'information a été livrée lundi par le président de l'Union des producteurs du riz de Bukonde et confirmée par le délégué de l'Institut africain pour le développement économique et social, formation Congo antenne du Kasaï. Selon Norbert Kimvula, cet outil va aider les paysans à commercialiser sur place le riz local et améliorer les conditions socio-économiques grâce à un ajustement du prix du riz. Depuis Kananga, Francis Kalunga.
Selon le président des producteurs du riz de Bukonde, l'acquisition de cette machine installée la semaine dernière permettra d'augmenter la production du riz destinée à la consommation locale. Plus besoin d'effectuer des déplacements coûteux vers Kananga ou Mbujimayi pour traiter et écouler le riz de Bukonde, a soutenu Amandou Sinkala. Rappelons que jusque-là, la situation des producteurs du riz dans cette contrée est resté précaire. La plupart d'entre eux vivent dans des cases en paille. Ils éprouvent d'énormes difficultés à scolariser les enfants et ne disposent pas de structures de santé. Par ailleurs, certains parmi eux travaillent pour d'autres propriétaires de terres. Ces derniers ne leur versent qu'entre 10 et 20 000 francs congolais contre toute leur production. Pour le président de l'Union des producteurs du riz de Bukonde, l'acquisition de cette machine pourrait améliorer leurs conditions. Kananga, Francis Kalunga, Radio Dikoudietou pour Radio Okapi.
C'est tout pour ce bulletin d'information. Merci de rester sur la fréquence de la paix.
Okapi.
Parole aux auditeurs, J.R. Lungembo.
Voilà, nous entamons le dernier quart d'heure de cette émission. On va conclure d'ailleurs avec notre invité et aussi avec les auditeurs qui nous ont rejoints. Richard qui est à Trondheim, Norvège, voilà. Et Safari qui est à Goma. Voilà, nous avons Richard, mais il est temps de revenir encore à vous, Pascal Turlin, parce qu'on parlait de Jean-Pierre Bemba avant le flash d'information. Donc, rapidement, la question donc, qui doit dédommager Jean-Pierre Bemba au cas où il est libéré?
Bon, je répondais pas spécifiquement sur Monsieur Jean-Pierre Bemba, je répondais en relation avec le statut de Rome. S'il s'avère au terme d'une procédure qu'une personne doit être acquittée, doit être libérée et que cette personne a été illégalement emprisonnée, à ce moment-là, il peut y avoir éventuellement, dans ces circonstances exceptionnelles, des dédommagements qui seront prévus, des réparations qui seront fournies par la Cour pénale internationale. Cela n'a rien à voir avec les États dans lesquels les enquêtes ont eu lieu. Mais il s'agit là de circonstances tout à fait exceptionnelles. Lorsqu'on entame un processus judiciaire, l'on sait très bien, dès le début du processus, qu'il peut y avoir deux issues à ce processus, soit un acquittement, soit un emprisonnement. Afin qu'il y ait des dédommagements, il faudrait qu'il y ait eu un emprisonnement ou une détention qui soit basée sur des mensonges ou sur une illégalité. Et si ça n'est pas le cas, si l'acquittement est simplement dû, entre guillemets, au travail, à l'évaluation des juges, au-delà de tout doute raisonnable que les éléments à décharge vont à l'encontre des éléments à charge, à ce moment-là, simplement, la personne se retrouvera acquitté et libéré au terme de la procédure. Il n'y a pas nécessairement ou obligatoirement de dédommagement.
Richard, vous êtes en Norvège. Bonjour.
Richard, oui, bonjour.
Voilà, vous êtes avec nous, Richard. Vous avez la parole.
Oui, merci beaucoup de me passer la parole. Je voulais.
Oui, rapidement, Richard.
Votre invité. Allô?
Oui, rapidement, Richard.
Je voulais juste poser une question à votre invité. Bon, disons de la CPI, est-ce que comment est-ce que il est satisfait du bilan de la CPI? Parce que moi, je me mets sur les plans d'un Congolais qui ressent, qui apprécie un peu, d'une façon un peu controversée, cette justice que se prévaut la CPI. nous estimons être vraiment un scandale de justice, parce que tellement c'est une justice à double vitesse. Je ne voudrais pas répéter, plusieurs intervenants l'ont déjà fait remarquer, mais nous avons l'impression comme cette justice est plus tournée vers les Africains, particulièrement les Congolais, avec des scandales comme celui de Jean-Pierre Bemba. Je ne sais pas, la procédure qui avait permis qu'on puisse l'arrêter tout de suite. Et depuis lors, et ça fait déjà 4 ans de cela, il n'y a pas de suite, mais il y a des crimes graves qui se commettent ailleurs, et on ne voit pas la CPI se mêler. En tout cas, Proche-Orient, on a vu des massacres. On a vu tout ce qui s'est fait là-bas, et en Israël, en Palestine. Mais on n'a jamais entendu la CPI faire quoi que ce soit. Et en plus, quand je pense que certaines puissances, certaines grandes puissances, et comme les États-Unis, la Chine, se réservent un peu, et même le pays qui nous agresse là-bas au Congo, le Rwanda, se réserve même d'entrer dans cette CPI, je me dis, mais ne sommes-nous pas les dindons de la farce, nous, Congolais, à vouloir faire confiance à cela? Moi, je pense qu'aujourd'hui, il faudrait que le Congo essaie de s'investir pour avoir un appareil judiciaire qui puisse fonctionner. Je comprends bien que votre invité puisse défendre son job. C'est tout à fait normal. Mais sincèrement, je crois que si on fait un peu l'évaluation après 10 ans, il faut qu'on arrête avec une expérience qui n'a pas porté. Parce qu'il faudrait au moins, quand il y a des grands problèmes de violation des droits de l'homme ou des violations des droits de l'homme,
voilà, Richard, voilà, il faut compter la distance, hein, quelqu'un qui est en Norvège, Richard, et puis, bon, la communication s'est dénaturée, petit à petit, bon, voilà, nous retenons que c'est une expérience, pas une bonne expérience que nous avons pu faire avec la CPI, selon vous, Richard, il est temps que la RDC puisse se retirer, en tout cas, de ses partenariats avec la CPI liés au statut des Roms. Voilà, nous prenons Safari qui est à Goma. Bonjour. Bonjour Safari.
Oui, bonjour à Dieu, Capi, bonjour à tous.
Et vous avez la parole, Safari.
Merci. Je voudrais encore revenir sur ce point. Je voudrais vraiment une petite explication ou un éclaircissement concernant ce point que j'ai essayé d'expliquer dans PDF. Concernant votre compte agenda, je me souviens, et tout le monde peut se souvenir que lorsque Laurent Kunda était au Congo, le président Kagame avait dit, le président Kagame, président du Rwanda, que après Laurent Kunda, il y aura un autre Laurent Kunda au Congo. Je pense que vous n'allez pas me contredire, je ne sais pas. Mais, à ce moment-là, après Laurent Kunda, bien sûr, il y a un autre Laurent Kunda qui était en Taganda et M23 et consorts. Et puis, quand on sait que votre compte Taganda avait déjà un mandat d'arrêt de la CPI, il y avait, on lui a encore mis dans l'armée congolaise pour les affaires de la paix, pour stabilisateur, je ne sais pas tout ça. Mais il ne peut pas conclure dans ce sens-là qu'il a été commandité, tout simplement. Et maintenant, ma question ou ma réaction concernant cela, est-ce que vraiment dans ces pays, quand ils enquêtent, ils cherchent la cause? Est-ce qu'ils cherchent la cause? La cause serait quoi? Si c'était tout simplement exécutant, il ne peut pas conclure qu'il était envoyé ou pas. Soit le gouvernement congolais ou le gouvernement rwandais. Et quand je dis le gouvernement, pourquoi poursuivre tous les gouvernements? Est-ce que c'est tous les gouvernements qu'on va poursuivre ou ceux qui dirigent? Le président Kagame et le président Kabila, par exemple. D'abord, je ne suis pas politicien, je ne suis pas tiré dans les affaires politiques, ni opposant, ni quoi. D'ailleurs, je suis étudiant en médecine. Bon. Quand on sait que, juste après cela, la fin des campagnes électorales en RDC, il y avait des tueries. Quand j'ai entendu dire que la CPI poursuit pour des cas ou des crimes graves, là je ne sais pas, quand on dit 15 Congolais, ça c'est pas grave, mais quand on dit je ne sais pas, deux ministres, ça devient grave. Maintenant là, on ne sait pas quelles sont les différences ou les différences d'âme que la CPI considère. Je ne sais pas à quel niveau ils doivent considérer tout ça, mais. Et quand on poursuit votre compte agenda, est-ce que celui qui a commandé, je ne sais pas, tout ce qui se passe à l'est de la RDC,
On sait que Jean-Pierre Bemba est là parce qu'il a commandité aussi des tueries, je ne sais pas, c'est ce qu'ils nous disent, moi je ne sais pas. Il a commandité des tueries en République centrafricaine ou comme ça. Mais est-ce qu'on doit poursuivre vraiment la conséquence où c'est qui, les militaires qui sont en train de tuer à l'Est, ou ceux qui commandent, qui achètent, plutôt qui envoient des armes, il y a d'ailleurs
Voilà, Safari, vous avez déjà dit l'essentiel, vous revenez encore sur ce que vous avez dit. Bon, on retient simplement que vous voulez que la CPI puisse enquêter et aussi lancer un mandat contre celui qui est en train de commanditer cette situation, cette guerre à l'est dans l'est de la République démocratique du Congo. Merci Safari Turlan, Pascal Turlan, nous allons conclure avec vous. Vous avez suivi les uns et les autres. Aujourd'hui, c'est vrai, il est temps que pour certaines questions, que notre justice, la justice congolaise, puisse prendre les choses en main. Mais pour des crimes, et pour lesquels donc, au fait, la RDC a ratifié le statut des Roms, je crois que c'est dans la compétence de la CPI, et vous soutenez encore que des partenariats doivent encore exister, ce sera l'avantage. Et là, la dernière question que nous vous posons, quelles sont, selon vous, les faiblesses à corriger dans les textes de statut des Roms, s'il faut l'adapter aux réalités du moment, et surtout pour les cas de la RDC?
Alors je crois qu'il n'appartient pas aux représentants de la Cour de discuter du texte fondateur de la Cour. Cela appartient aux États, y compris à la République démocratique du Congo, dans le cadre de l'Assemblée des États partis, de faire état de son évaluation de la mise en œuvre du statut de Rome, y compris dans son pays. La République démocratique du Congo est représentée à l'Assemblée des États partis, comme tous les 120 autres États. Elle est donc en mesure de faire valoir ce point de vue s'il y a, selon elle, des améliorations à apporter. Ceci dit, je crois qu'il ne faut pas de notre point de vue. Ce qui compte aujourd'hui, ça n'est pas nécessairement de faire évoluer le statut de Rome, c'est plutôt de faire en sorte que celui-ci soit appliqué de la façon la plus stricte et la plus absolue possible. Un des auditeurs a mentionné, je crois que c'était Richard, que j'étais là pour défendre mon job. Je crois que c'est un petit peu rapide comme remarque. Nous sommes là pour défendre les victimes. Nous sommes là pour faire en sorte que les victimes, dans une situation donnée, qui n'ont pas accès à la justice, puissent avoir accès à cette justice. La Cour pénale internationale permet de faire cela, et je crois que cette personne n'a peut-être pas suffisamment parlé aux victimes en Ituri qui ont réagi suite à la condamnation de M. Thomas Lubanga Dilo à 14 ans de détention, qu'il n'a peut-être pas suffisamment parlé aux victimes du massacre de Bogoro, des crimes qui auraient pu être commis, selon nous en tout cas, par messieurs Germain Katanga et Mathieu Ngoudjolo dans ce cadre-là. Nous verrons ce que les juges en tireront. Je crois qu'il n'a peut-être pas suffisamment parlé, comme nous l'avons fait, aux victimes des crimes qui ont été commis en République centrafricaine, où les troupes de M. Jean-Pierre Bemba, selon nous, sont intervenues. Le problème n'est pas d'être intervenu en République centrafricaine, le problème est de l'avoir fait d'une manière qui constituait des crimes au regard du droit international. Et c'est pour ça que nous sommes là, pour répondre à ces demandes de ces victimes et pour défendre ces victimes.
Bon anniversaire à la CPI, Pascal Turlan. Nous rappelons que vous êtes conseiller en coopération internationale au bureau du procureur de la CPI. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'était un grand plaisir pour nous de vous recevoir sur les ondes des Radio KPI.
Merci à vous, JR, et merci à tous les auditeurs.
Allô? 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 Mais ils ne répondent pas?
Merci à tous également d'avoir participé à ces débats. Merci à Dédoné Nyangasa qui a assuré la mise en onde de cette émission. Titi Poutou et Piro Elamegi l'ont réalisé. Et J.R. Lungembo vous l'a présenté et coordonné sous la supervision de Nicole Gaka. Réécoutez cette émission sur www.radiokapi.net.